Magazine Théâtre. Interviews, commentaires, rencontres, votre rendez-vous théâtre à Genève.
Anne-Catherine Clément.
Au théâtre du Grütli, vous pouvez voir Le Gardien, l'une des pièces les plus connues d'Harold Pinter, qui eut dès sa création en 1960 un énorme succès. Elle met en scène deux frères, Aston et Mick, qui recueillent, à l'instigation du premier, Davies, un vieil SDF. Nous en parlons avec la metteur en scène du spectacle, Marie-Christine Épinet. Le Gardien d'Harold Pinter, comme beaucoup de pièces d'Harold Pinter, c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce enfermée avec les personnages. Et ce n'est pas vraiment une histoire dans le sens, disons, narratif du terme. On voit en fait l'interaction entre ces personnages, ils se dévoilent ou justement pas à travers les textes, à travers ce qu'ils disent. En fait, on a l'impression que c'est très basé sur la langue de Pinter qui est aussi particulière. Comme metteur en scène, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est cette langue à travailler avec les comédiens.
C'est le premier coup de foudre. Avant d'imaginer mettre en scène et choisir des comédiens pour jouer une pièce, c'est le coup de foudre qu'on a avec un auteur, une écriture. Et moi, j'ai toujours été très, très sensible à cette écriture très dynamique, très corrosive aussi de Pinter, mais surtout cet aspect musical dans le sens où il écrit et c'est réglé comme du papier à musique. Hein. C'est une image souvent évoquée pour les textes de Pinter. Donc après, tout le travail se fait avec cette précision-là, puisqu'il a écrit avec ce rythme très très précis. Les rythmes sont aussi dépendants des pauses, des temps, des silences. Hein. C'est quand même, comme dirait Brigitte Gauthier, le maître de la fragmentation. Et c'est sur ce travail-là qu'on travaille énormément avec les comédiens. Donc c'est un travail d'immense précision et il faut arriver à trouver le dosage entre le cadre précis, exigé par la langue, et en même temps la liberté de jeu à laisser aux acteurs pour qu'ils trouvent, eux, leur liberté d'interprétation à l'intérieur de cette précision-là. C'est un double enjeu, je dirais.
Est-ce que justement la précision du texte oblige à une grande, grande précision aussi dans la mise en scène par rapport au déplacement, par rapport au regard et ce genre de choses-là? Est-ce que le texte induit ça?
Il l'induit, mais en même temps, je trouve que c'est très important, sachant aussi les immenses qualités d'acteurs des trois comédiens, hein, Mathieu Delmonté, Frédéric Landenberg et Jacques Props, qui jouent le gardien, de leur laisser cette marge aussi de liberté. Donc c'est cette douce alchimie entre précision extrême et puis souplesse. Si on n'a pas cette souplesse, on risque d'avoir vraiment des interprétations trop froides, trop étriquées. Et c'était surtout pas mon souhait, sachant les pointures d'acteurs que j'avais dans cette équipe.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le texte qui montre vraiment les rapports de force qui changent selon quels personnages interagissent ensemble, mais aussi dans la scène elle-même peuvent changer. Et puis, il y a aussi dans les silences, comme vous l'avez dit, tout un travail qui est fait par rapport à ce rapport de force dans le silence et dans la parole.
C'est la toute grande force de Pinter, c'est qu'il a une écriture qui bascule. Il avance avec que ce soit au niveau des questions, on avance par des micro-informations, c'est pour ça que je parlais un petit peu de pièces policières aussi, puis à un moment donné, il y a des bascules. Et comme c'est amené, hein, il y a tout un aspect psychologique, mais aussi une observation extrêmement précise des mécanismes de comportement humain qui font qu'on arrive à amener quelqu'un là où on veut l'amener. Et au bout d'un moment, les choses basculent complètement et on prend le pouvoir sur l'être, sur la situation. Et ça, c'est extrêmement personnel à Pinter. C'est certainement une des choses qu'il a créées dans son écriture, même si on le compare souvent à Beckett ou au théâtre de l'absurde, Ionesco et autres. Moi, je trouve que c'est son originalité. Et c'est surtout l'aspect politique aussi de cette écriture. Non seulement les propos qu'il a pu tenir, mais dans l'écriture, montrer comment on peut arriver à des dérives, finalement, d'une manière, en suivant un fleuve assez tranquille, et au bout d'un moment, on passe à des chutes, à des cascades. Et c'est d'une observation extraordinaire. Et dans le jeu, servi comme le servent ces comédiens extraordinaires, eh bien, on comprend très bien, on saisit. Et du coup, on a même un aspect comique de ces renversements, alors qu'on est dans un drame. Mais c'est un drame comique. Et après, tout est question de dosage. Pinter disait que si le public ne riait pas, c'est qu'il n'avait pas saisi l'aspect comique de cette situation. Et en même temps, si le public rit trop, c'est comme s'il se refusait à percevoir l'aspect dramatique de ces trois paumés de la société, mais qui ont tous un écho en nous. On a tous nos côtés paumés, à l'heure actuelle encore plus qu'à d'autres moments. à voir ce que le monde vit, des dérives en tout genre. Il y en a des Davies, il y en a des Aston et des Mick à l'heure actuelle, en Europe et ici en Suisse.
C'est vrai que c'est un texte de 1960, mais qui est très contemporain, qui est toujours contemporain. On a à la fois la folie qui est présentée, on a le SDF, il manque en fait que le toxicomane pour qu'on ait les trois marginaux les plus rejetés de notre société dans ce spectacle.
Oui, mais à chacun sa drogue. Hein. Il y en a qui se droguent au travail, il y en a qui se droguent. Il n'y a pas besoin de prendre de la coke ou du shit pour être drogué. On peut être aussi drogué au racisme, comme les Davies. On peut avoir des radeaux, comme Aston qui s'accroche à ses prises électriques en lien avec ce qu'il a vécu et dont il arrive quand même ou pas à se libérer à la fin. Mick est lié quand même à un système de violence et Dieu sait si on a des violences au quotidien. Maintenant aussi, à travers la jeunesse, à travers des moins jeunes aussi. Hein, on dégaine des couteaux aussi rapidement que Davies sur le plateau en tant que gardien. Et en même temps, les faits divers nous prouvent que les choses peuvent très très vite déraper. Donc ce sont des rejetés, mais en même temps, ce que je trouve chez Pinter, c'est de montrer que ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Le fait de chuter. Le fait de passer d'une situation tout à fait confortable à une situation des plus inconfortables. Hein, on regarde économiquement et financièrement ce qui se passe mondialement. Et bien, il y a des gens qui sont dans des situations plus que précaires maintenant. Ils se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Hein. On sort du grottelier, on regarde un petit peu. Moi, je croise un SDF tous les jours sur mon chemin que j'ai invité au spectacle. Mais on verra s'il ose venir.
Quand il est venu me voir, je lui ai dit, hein, vous avez entendu, vous étiez là.
Je l'ai vu se jeter sur vous.
Se jeter sur moi? Vous rigolez. L'enfoiré. Un homme de mon âge. Moi qui ai dîné aux meilleures tables.
Oui, je l'ai vu qui se jetait sur vous.
Tous ces types amoureux, tous ces maudits vins du pied, ça sait seulement se conduire comme des cochons. J'ai peut-être été sur les routes durant quelques années, mais vous pouvez y aller, je suis propre. Je prends soin de moi.
Un écrivain masculin, Harold Pinter, trois comédiens masculins sur scène. Vous-même, vous êtes une femme, Marie-Christine Épinay. Ça a influencé votre travail de mise en scène pour ce spectacle?
Oui, beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la thématique féminine jusqu'à maintenant. Et puis, j'avais envie de passer à un travail plutôt masculin. Et c'est vrai que le fait de faire une première mise en scène d'un point de vue féminin en travaillant avec trois acteurs, ça a forcément une incidence. Et Dieu sait s'il faut dialoguer, et dialoguer des fois haut et fort pour tenir la direction de la barque du gardien, pour donner ce point de vue aussi, ce point de vue féminin auquel peut-être d'autres ne sont pas sensibles. Moi, j'ai traité avec Jean-Claude Marais pour le décor et avec le musicien Michel Vinch l'idée que dans ce décor-là, il y avait l'élément féminin. C'est-à-dire que la présence du quatrième personnage, hein, on parle du quatrième mur au théâtre, mais là, il y a un quatrième personnage qui est la femme. Soit l'épouse, hein, soit la mère, soit les femmes rencontrées, ça perle, ça suinte, ça, il y a des courants d'air, il y a des gouttes qui coulent, on évoque ces femmes-là, mais elles sont présentes par la musique, par les sons, par les bruits, comme si on était dans comme si c'était une chambre in utero, je dirais, comme une cale de bateau, un fond de cale de bateau. Donc oui, la femme est présente, mais pas sur scène directement. Elle est plutôt ressentie. Et comme le public est un personnage, hein, je parlais tout à l'heure du public qui change à chaque soir et avec lequel il y a des interactions entre les comédiens et le public, ben, on a l'impression que c'est une personne en soi, puisque chaque spectateur interagit sur les autres spectateurs en riant ou en ne riant pas, en étant très concentré ou pas. Et bien là, déjà, il y a un être en soi.
À propos de public, justement, vous avez choisi de le positionner sur deux endroits par rapport à la scène, ce qui est intéressant parce que, comme on est quand même dans une thématique de l'enfermement, même si elle est plutôt volontaire, là, pour ces personnages qui choisissent d'être dans cette salle, dans ce huis clos, mais ils peuvent en sortir. Souvent, d'ailleurs, ils sont que deux à être présents dans la salle. Et donc, cette disposition-là enferme et isole un peu plus ces personnages sur la scène.
Alors là, c'est la grande qualité de Jean-Claude Marais, d'avoir réussi aussi vite et aussi bien à saisir ma demande d'espace radeau, d'espace un petit peu arraché comme une chambre arrachée d'une maison par un tsunami ou une catastrophe naturelle, comme on en a vu tellement ces dernières années. Et puis, il a compris aussi l'effet cul-de-sac que je souhaitais. Donc, en ouvrant sur les deux côtés, on a un côté plus théâtral, l'autre plus cinématographique, mais il y a un point de fuite qu'est l'angle de cette chambre. Et du coup, effectivement, on est comme des vises à la fin. On est comme il est à la proue du plateau. Eh bien, on peut avoir une impression comme ça de point de fuite où se trouve plutôt Aston à la fin. Et on a cette impression d'enfermement. Enfermement et on ne sait pas par où sortir. Mais en même temps, il y a des espaces, il y a des fuites, il y a des chemins possibles. Mais vous avez bien perçu les choses. Mais ça, c'est Jean-Claude Marais. Moi, j'ai mis des idées et lui concrétise de manière somptueuse.
On a parlé du texte, on a parlé des comédiens et même du public. Il y a une chose qui, pour moi, est aussi assez importante dans le spectacle, c'est l'objet. Il y a beaucoup d'objets sur la scène et ça fait partie de l'écriture de Pinter, l'utilisation de l'objet qui est très utilisé, très cité par les personnages dans le texte.
Oui, le plateau pourrait même être encombré de beaucoup plus d'objets. Moi, je me suis limitée à la didascalie de Pinter, et elle est longue, hein, elle fait une demi-page d'indications sur le décor et les accessoires. Tout est essentiel, on utilise pratiquement tout ce qui est décrit dans les accessoires. Alors, il y a tout un chemin, hein. Pinter avait 29 ans, 59 quand il a écrit la pièce, mais tous les thèmes sont là, comme il l'était déjà dans l'anniversaire, qui avait été tellement assassiné par la critique quelques années auparavant. Le gardien a eu un immense succès, mais tous les thèmes étaient là, l'écriture de Pinter était déjà là. Et cette manière d'utiliser le côté no man's land, le côté un peu perdu, tous les objets liés aussi à 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale, Londres qui est à peine reconstruite des ravages de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien il y a ces évocations, la cuisinière qui peut-être laisser échapper du gaz, penser naturellement aux origines juives de Pinter, les prises électriques hein, avec toutes les expérimentations médicales qui étaient faites à l'époque, puisqu'on utilisait les êtres humains pour faire des expériences, on utilisait les patients des hôpitaux psychiatriques pour faire des expériences avec cette électricité. Les gens ressortaient comme ils ressortaient, mais en tout cas, ils ressortaient pas indemnes, hein, comme on en a ce témoignage poignant dans le spectacle par Aston. Il y a les journaux, il y a les valises, donc c'est le voyage, c'est la route, Lévis est sur la route, pourquoi il l'est ? Avant, il n'était pas sur la route, qu'est-ce qu'il a jeté sur la route. Oui, puis il y a le chaos des objets, ils sont organisés dans le monde d'Aston, mais en même temps c'est tout ça, et la création naît de tout ça, et les relations entre ces trois personnages naissent de ce lieu. Puis il y a les lits qui peuvent aussi faire penser à des lits de psychanalystes hein, sur lesquels on se couche et on est en lien avec soi-même. Il y a aussi l'arrière-cour, la coulisse de la scène, hein, le jardin où Aston espère se construire son atelier qui lui permettra de construire autre chose après. Donc c'est une reconstruction intérieure dont il est question là aussi. Donc on navigue entre l'intérieur et l'extérieur tout le temps. Cette chambre, elle est très très symbolique hein, de notre ménage intérieur aussi. Hein, ils font le ménage sur scène, mais ils font un ménage intérieur, comme nous, public, par la catharsis, l'effet cathartique de cette vision du gardien, et ben, on est renvoyé à nous-mêmes, à notre propre ménage intérieur et extérieur.
Nous étions avec Marie-Christine Épinay, metteur en scène du spectacle Le Gardien d'Harold de Pinter, à voir au théâtre du Grütli jusqu'au 4 novembre.